Nous sommes dans la joie d'être avec vous ce matin pour, comme on l'a fait, louer notre Seigneur, le célébrer, entendre sa parole. Et je remercie le Seigneur pour la lecture de ce matin, ce texte d'Actes chapitre 13 que nous avons lu, qui illustre ce que je vais dire aussi à partir de ce passage d'Éphésiens. Donc, ce passage d'Acte 13, là, ça va rester dans votre tête, je pense, et vous allez faire des liens entre ce que je vais dire et ce que nous avons déjà lu. Nous allons, comme la semaine dernière, parler de l'Église, et comme ça a été dit encore ce matin, parler de l'Église, qui est le temple de Dieu, qui est, et ce texte nous le montre, la nouvelle création de Dieu par Jésus-Christ. L'Église, la nouvelle création de Dieu par Jésus-Christ. Et nous allons lire ce texte qui se trouve dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 11. Et avant de lire ce passage, rappelez que déjà dès le chapitre 1, l'apôtre Paul a rappelé aux chrétiens d'Éphèse, et il rappelle aux chrétiens de tous les temps qui sont saints et fidèles en Jésus-Christ, que s'ils sont sauvés, ce n'est que le fruit de la grâce de Dieu, que ce n'est parce que Dieu, dans sa souveraine grâce, sa souveraine volonté, les avait choisis avant la fondation du monde pour qu'ils célèbrent la gloire de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous a sauvés. Et que c'est parce que Dieu, qui est amour, a usé de miséricorde envers nous, en ne nous laissant pas dans la condition que nous étions morts, il est dit au chapitre 2, à cause de nos offenses et de nos péchés. Et Dieu, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a rendus vivants en Jésus-Christ, lorsque nous avons mis notre confiance dans le Seigneur. Donc, si le salut est individuel, puisque c'est à chacun de croire en Jésus-Christ pour être sauvé, et dans la première partie du chapitre 2 des Éphésiens, il est parlé de cet aspect-là où c'est à chacun de croire en Jésus-Christ pour être sauvé. Dieu, dans son plan, n'a pas voulu que chaque chrétien, individuellement, reste séparé. Sa volonté, c'était de former l'Église. Donc, Dieu ne veut pas que nous ayons une vie chrétienne indépendante les uns des autres. Il veut que nous vivions l'Église. Et ce texte est merveilleux en ce que l'apôtre Paul souligne ce que Jésus-Christ a fait pour créer l'Église et pourquoi il est important que l'Église soit que nous vivions pleinement ce qu'est l'Église. Je vous disais la fois dernière que dans cette première partie du chapitre 2, dans les 10 premiers versets, que Dieu nous avait donné donc une nouvelle destinée, puisque alors que nous étions destinés pour la mort éternelle, Dieu nous a rendus vivants et nous a donné la vie éternelle. Il nous a donné une nouvelle position puisque nous sommes maintenant en Jésus-Christ, et étant en Jésus-Christ, nous sommes déjà dans les lieux célestes avec le Seigneur. Et il nous a aussi donné de nouvelles responsabilités puisqu'il nous a préparé des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Et donc en cela, si nous sommes encore sur la terre, c'est pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Et donc c'est une responsabilité qu'il nous donne. Et dans la suite, l'apôtre Paul va parler de l'aspect communautaire. Si nous acceptons le Seigneur Jésus individuellement, mais ensemble, nous formons l'Église. Et dans ce passage que nous allons lire, nous allons voir qui compose l'Église, comment l'Église donc a-t-elle été créée et pourquoi elle a été créée. Donc lisons ce texte, Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre avec, en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alors, ce texte que nous avons lu tout à l'heure dans Actes chapitre 13 parlait que d'abord, les apôtres allaient dans les synagogues et annonçaient la parole, et après, certains acceptaient, beaucoup n'acceptaient pas, et ils se tournaient après vers les païens, et qui acceptaient la parole avec beaucoup de joie. Et là, l'apôtre Paul, il s'adresse à ces chrétiens d'origine païenne, et il dit comment Dieu, alors qu'ils étaient rejetés, comment Dieu les a rapprochés de ceux qui les rejetaient pour en faire un peuple. Mais dans ce verset 15, il dit qu'il a voulu créer en lui-même, avec les deux, donc juifs et non-juifs, un seul homme nouveau en établissant la paix. Et déjà au verset 10, toujours du chapitre 2, il dit « Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Donc à chaque fois, l'apôtre Paul souligne cette création, cette nouvelle création de Dieu. Les chrétiens, ce sont des êtres créés. Bon, nous avons tous été créés par Dieu. Mais le chrétien, ce qu'il a en plus, c'est ce qui le diffère des autres, c'est qu'il a été régénéré et l'Esprit de Dieu vient habiter en lui. Et il est une nouvelle création dans le sens qu'il est sur la terre, mais il est aussi déjà dans les cieux. Alors, ce passage nous parle de qui compose l'Église. Je dirais que l'Église est composée d'hommes et de femmes qui, naturellement, n'auraient rien à faire ensemble. Et si on voit notre Église, on peut le dire aussi que si nous n'étions pas en Jésus-Christ, nous rien à faire ensemble. Mais le texte souligne très clairement cette vérité parce que l'apôtre Paul parle aux non-juifs et aux juifs. Dans les versets 11 à 13, il s'adresse aux païens. Il dit « Mais souvenez-vous de ce que vous étiez autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui l'ont sans la chair par la main de l'homme. » Il dit, vous étiez sans Christ, privés du droit de cité en Israël. Donc il y avait une séparation, il y avait un mur de séparation entre le juif et le non-juif. Et donc les deux n'avaient rien à faire ensemble. Et ils n'avaient pas le droit de se retrouver. Ils n'avaient pas, un juif ne pouvait pas aller avec un non-juif, même pas manger avec un non-juif. Donc, Jésus-Christ, par sa mort, va réconcilier ceux qui, par nature, n'avaient rien à faire ensemble. Et ça, c'est merveilleux. L'apôtre Paul donc va dire, les Juifs, qui ils avaient la loi, ils avaient tout ça, ils se croyaient même au-dessus, ils avaient une attitude même méprisante vis-à-vis des autres. Lorsque un Juif parlait de non-Juif, c'était sur un ton méprisant. Pour eux, c'était, ils étaient les meilleurs, ils étaient ceux qui avaient la loi, ceux qui avaient les promesses, et les autres, c'était rien. Lorsque David, il a parlé de Goliath, lorsqu'il a entendu Goliath, il dit, mais qui est ce philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée de Dieu? Donc c'est vraiment sur un ton méprisant. Et même l'apôtre Paul, on va l'accuser de faire entrer un non-juif dans le temple, parce que c'était interdit, il y avait ce mur de séparation, et l'apôtre Paul, il parle de mur de séparation, il doit faire allusion aussi, vous avez le temple, et tout autour du temple, il y avait ce mur où les païens ne pouvaient pas franchir. Et donc, il y avait un mur de séparation, et une place réservée pour les gentils, donc les païens, et ils n'avaient pas le droit, s'ils franchissaient ce mur, c'était la mort. Et là, l'apôtre Paul leur dit, mais en Jésus-Christ, ce mur de séparation a été brisé. Il n'y a plus de séparation entre vous. Alors nous tous qui sommes ici, nous sommes de ces païens. Sauf si peut-être qu'il y en a d'origine juive, issue des 12 tribus d'Israël, ça m'étonnerait, mais qui sait. Mais même s'il y en a, c'est pas grave, parce que c'est l'Église. Mais 99,9% de ceux qui composent l'Église, ce sont donc des personnes d'origine non-juive. Nous étions sans Christ, il est dit. Et le texte que nous avons lu dans Acte 13, l'apôtre Paul souligne que les promesses, c'était pour les Juifs. C'était pas pour les autres. Et lorsqu'il dit, vous étiez sans Christ, vous n'étiez sans Messie, vous n'avez pas d'espérance d'avoir un Messie. Il dit, vous étiez privé du droit de cité en Israël, vous étiez étranger, vous étiez donc exclu des bénédictions, vous étiez sans alliance, vous n'avez pas d'alliance avec Dieu comme Dieu avait fait avec Abraham. Les promesses que Dieu avait faites, c'était pour la descendance. Vous viviez sans espérance, vous, sans Dieu, vous adorez des idoles qui n'étaient pas des dieux. Bon, alors à Éphèse, il y avait la déesse Diane, ils adoraient cette déesse Artémis. Et donc, tous ces peuples-là, qui étaient donc idolâtres, ils ne connaissaient pas le vrai Dieu, et Israël, qui connaissait le vrai Dieu, et avait pour mission de faire connaître ce vrai Dieu au peuple. Ils étaient sans Dieu dans le monde et ils étaient privés du droit de cité en Israël. Et là, gloire soit rendue à notre Seigneur. Le texte nous dit que les païens et les juifs qui ont placé leur confiance en Jésus ont une nouvelle identité. Ils sont en Jésus-Christ et par le moyen du sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix, le Seigneur les a rapprochés l'un et l'autre. Pour en faire un seul homme nouveau, il est dit au verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, il avait déjà annoncé qu'il avait d'autres brebis qui n'étaient pas dans la bergerie. Donc, le plan de Dieu, le salut des païens, c'est pas... Ça date pas de 2000 ans. Avant même la fondation du monde, l'apôtre Paul dit que Dieu nous avait déjà élus. Et le Seigneur Jésus-Christ, il dit que le salut vient des Juifs. Donc, dans un premier temps, il disait à ses disciples de ne pas aller vers les païens, de rester seulement dans la maison d'Israël, d'annoncer l'évangile, la bonne nouvelle au peuple d'Israël. Mais une fois que Jésus-Christ est mort et ressuscité, il a demandé à ses disciples, aux apôtres, de rester à Jérusalem et, une fois qu'ils ont reçu l'Esprit, d'aller annoncer cette bonne nouvelle à toutes les nations. Et le plan de Dieu s'accomplit ainsi. Donc, ceux qui composent l'Église, ce sont ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, qu'on soit juif ou non juif. Et ce texte nous rappelle que l'Église locale doit être à l'image de l'Église de Jésus-Christ, l'Église universelle, qui est composée de tous ceux qui sont réellement sauvés, et pas ceux qui sont juste chrétiens de nom. Mais l'Église locale doit être à l'image de l'Église de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que notre Église, et quelle que soit comme l'Église d'Éphèse, ou quelle que soit l'Église qui honore la parole de Dieu, on doit retrouver en son sein, des personnes qui viennent de partout. Il ne doit pas y avoir de mur de séparation entre les uns et les autres. L'Église de Jésus-Christ, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de clans, il n'y a plus de blancs ou de noirs, il n'y a plus de personnes qui viennent de tel continent. Non, le Seigneur Jésus-Christ sauve tout homme, toute femme, de toute langue, etc., et les met ensemble. Et ce qui nous unit, c'est Jésus-Christ. Donc lorsque des personnes cherchent des églises où il n'y a que des Africains, ou des églises où il n'y a que des Antillais, des églises où il n'y a que des Blancs, ça, c'est pas l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ, c'est une église où des gens qui n'avaient rien à faire ensemble, le Seigneur les met ensemble pour louer et le célébrer. Et donc, si, en tant que chrétiens, nous ne comprenons pas cela, nous n'avons pas compris l'évangile. Donc l'Église doit être multi-ethnique. L'Église doit être multiculturelle. Parce que ce qui fait sa force, ce n'est pas d'où on vient. C'est où on va. C'est qui nous a sauvés. Nous servons le même Sauveur, le même Seigneur. Voilà. L'Église a été créée par notre Seigneur Jésus-Christ. Comment le Seigneur nous a-t-il rapprochés? Il est dit au verset 14, « Il est notre paix. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix. Il est réconcilié avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans le même esprit. » Combien de fois l'apôtre Paul souligne l'action de Jésus-Christ qui est venu annoncer la paix. Il est notre paix. Il est celui qui a apporté la paix dans notre cœur. Nous étions perdus, nous étions errants, et le Seigneur est venu nous délivrer, il est venu nous donner ce que notre cœur recherchait, c'était la paix intérieure, mais surtout la paix avec Dieu, parce que nous étions des ennemis de Dieu. Il est venu apporter la paix. Il est venu apporter la paix non seulement dans nos cœurs, mais il est venu apporter la paix entre ceux qui étaient tout le temps en guerre. Le Seigneur, le texte de Actes chapitre 10 souligne cela aussi, où Pierre, justement, il dit, mais il n'avait jamais mangé avec des païens. Et lorsque Corneille envoie les serviteurs pour qu'ils viennent chez lui pour annoncer la bonne nouvelle, Pierre, au départ, il ne voulait pas. Mais le Seigneur lui a montré dans une vision cette nappe avec des quadrupèdes. Et le Seigneur lui a dit à plusieurs reprises ce que Dieu a, lui dit de manger ce que Dieu il déclare c'est qui est pur, il faut pas que lui il dise que c'est impur. Et Pierre, lorsque ces hommes vont venir, il va comprendre le sens de cette vision et il va aller chez Corneille et il va annoncer la bonne nouvelle à Corneille et à toute sa famille et tous les amis proches qui étaient là chez lui. Et c'est ainsi que les païens vont se tourner vers l'évangile également. Donc Pierre va d'abord faire ce travail et après l'apôtre Paul, ça sera son ministère particulier. Et après, les Juifs vont pas comprendre pourquoi Pierre est allé chez les incirconcis, comme ils disent. Et donc, il a fallu que Pierre leur raconte un peu tout cela. Et donc, vous pouvez le lire dans Actes chapitre 10 et Actes chapitre 11. Donc, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Il dit, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ, selon Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17. Le Seigneur a apporté la paix, il est notre paix. Il a établi la paix entre les hommes, versets 15 et 16, il est dit ça. Il a établi la paix entre les hommes, entre les juifs et les non-juifs. Il a aussi établi la paix avec Dieu. Le texte nous dit aussi qu'il est venu annoncer la paix. C'est ce qu'il a fait lorsqu'il était encore sur terre, mais même en remontant auprès du Père, il a laissé les disciples et la mission des disciples, la mission de tout chrétien, c'est d'annoncer la paix. C'est Jésus-Christ qui est la paix. Et lorsqu'on annonce la bonne nouvelle, on annonce aux hommes la paix. Et c'est comme cela que le Seigneur ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. La troisième chose, c'est que dans les versets 19 à 22, nous voyons que Dieu a voulu créer l'Église, non seulement parce qu'il voulait rassembler que ce soit juifs et non-juifs, il a créé l'Église pour pouvoir avoir cette habitation, de la même manière que dans l'Ancien Testament, il manifestait sa présence dans le tabernacle. Et il y avait donc ce tabernacle qui était dressé et Dieu manifestait sa présence, sa gloire, là dans le lieu très saint, il est dit. Et là maintenant, il n'y a plus de temple. Et le texte nous dit que le temple de Dieu, c'est l'Église. Donc Dieu, il a voulu créer l'Église et il a laissé l'Église encore là, présente sur cette terre, pour manifester sa présence aux hommes. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alors ce temple que nous représentons, donc l'Église est le temple de Dieu. Dieu veut être au milieu des hommes, il veut être parmi les hommes. Et il nous dit que notre présence symbolise la présence de Dieu parmi les peuples. Et ce texte-là nous montre que le temple de Dieu, cette nouvelle création qu'est l'Église, que Jésus, c'est lui l'élément central, c'est la pierre angulaire. Il est même le fondement de l'Église. Parce que dans Corinthiens chapitre 3, verset 11, il dit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Jésus-Christ, c'est lui le fondement, c'est lui aussi la pierre angulaire, c'est l'élément le plus important dans un édifice qui va permettre à tout l'édifice sera posé dessus. Et il est dit que les apôtres et les prophètes, ce sont ceux que Dieu a choisis pour bâtir sur ce fondement, sur la base de la parole de Dieu qui sera annoncée. Les personnes vont entendre l'évangile et à chaque fois qu'une âme se tourne vers Jésus-Christ, c'est une pierre qui est vivante que le Seigneur ajoute et construit cet édifice qui est son temple, l'Église. Donc, et il est important pour nous, frères et sœurs, que nous comprenions que non seulement en tant qu'individu, nous sommes le temple de Dieu. Votre corps est le temple du Saint-Esprit, dit aux Corinthiens. Mais en plus de ça, ensemble, nous formons le temple de Dieu aussi. Et si nous formons le temple de Dieu, nous devons comprendre que si Dieu il est présent parmi nous, il est non seulement en nous, mais il est aussi parmi nous, nous devons avoir tout le respect, nous devons rendre à Dieu tout l'honneur qui lui revient. Et Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un roi. Dieu n'est pas un président. Dieu est le créateur de toutes choses. Dieu est celui qui garde en nous ce souffle de vie. Donc, l'Église qui représente le temple de Dieu, et chaque église locale est une représentation du temple de Dieu. Et si nous comprenons que si Dieu nous a placés dans son temple, nous sommes une pierre vivante, et que Dieu, il est présent parmi nous. Lorsque nous venons le louer, nous venons l'adorer, il est là, présent avec nous, parmi nous. Est-ce que nous avons l'attitude de cœur parce que Dieu est présent? Il est bon que nous réfléchissions à cela, que nous nous souvenons que ce temple qui est où Dieu habite, ce temple, il est dit, il est saint. Il est dit, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Il est saint, donc mis à part par Dieu, mis à part pour louer, pour adorer Dieu. Il est saint dans le Seigneur parce que c'est Jésus qui est sa source de sainteté. Donc nous pouvons louer notre Seigneur, nous pouvons le célébrer, nous pouvons le remercier aussi parce que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, souvenez-vous. Donc on doit se rappeler de ce que Dieu a fait pour nous. Nous rappeler que si nous sommes là, si nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons dire que nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons placé notre confiance en lui. Alors c'est une grâce de Dieu et que nous formons ce temple. Le temple où Dieu vient habiter, il est en nous et il est parmi nous. Et ce temple, il est saint. Donc nous devons aussi avoir cette attitude sainte pour la gloire de notre Seigneur. Alors, ce texte nous pousse à nous questionner quant à notre appartenance ou pas à l'Église de Jésus-Christ. Faites-vous partie, oui ou non, de l'Église de Jésus-Christ? Est-ce que vous avez mis votre confiance en Jésus-Christ? Est-ce que vous croyez que c'est pour vous qu'il a donné sa vie? Est-ce que vous croyez qu'il s'est sacrifié pour que vos péchés puissent être pardonnés? Si vous ne le croyez pas encore, alors ce texte nous dit, alors quand il dit « souvenez-vous », de ce que vous étiez, alors c'est ce que vous êtes encore. Sans Christ, privé du droit de cité, étranger aux alliances, sans espérance et sans Dieu. Il dit, en lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père. Ce qui sous-entend que tant qu'on n'a pas été réconcilié avec Dieu, on ne peut pas avoir accès auprès du Père. Donc si vous n'avez pas encore mis votre confiance en Jésus-Christ, vous n'avez pas encore accès auprès du Père. C'est être libre accès auprès du Père. Vous pouvez venir le louer, l'adorer, comme il est dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce pour obtenir grâce, trouver miséricorde. Cet accès, vous ne l'avez pas encore. Mais c'est pas trop tard. Parce que si vous êtes là, c'est parce que le Seigneur a suscité dans votre cœur le désir de venir entendre sa parole. Et il vous appelle et il toque à la porte et il dit, voilà, si je me tiens à la porte et je frappe. Après, c'est à vous de dire, oui, rentre. Et puis l'autre chose, c'est que si nous avons donc mis notre confiance en Jésus-Christ, nous rappeler qu'il n'y a plus de mur de séparation et que l'Église doit, nous devons vivre en tant qu'Église cette réalité. Il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de distinction. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Il n'y a plus ceux qui sont plus importants et ceux qui sont moins importants. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Et après, l'apôtre Paul va expliquer comment maintenir cette unité. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Je pense qu'il faut vraiment que nous soyons conscients de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Ce qu'est l'Église. L'Église, c'est pas juste on vient dans un bâtiment, on vient s'asseoir, on écoute et on repart. L'Église, c'est Dieu présent parmi son peuple et chacun, cette pierre vivante, a une utilité et doit servir le Dieu qu'il dit connaître. Et ça va au-delà de juste dire qu'on est chrétien. Dire qu'on est chrétien implique de comprendre aussi ces choses et aussi de vivre ces choses. Donc que le Seigneur nous aide, que son nom soit glorifié dans nos vies, jour après jour, et que nous nous souvenions constamment que Dieu, il est là, présent au milieu de nous, il est là parmi nous, parce que nous formons son temple et qui est l'habitation de Dieu en esprit. Amen.